Mardi politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Pierre Firsion.
Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mardi politique. Notre invité ce soir, un élu centriste, le député UDI François Sauvadet, ancien ministre de la fonction publique. Bonsoir.
Bonsoir.
Dans la seconde partie de l'émission, vous nous direz où en est votre parti, l'UDI, quelques semaines après le départ de Jean-Louis Borloo et à 5 mois de la tenue d'un congrès décisif pour l'avenir de votre formation. Un gros plan également sur la crise que traverse actuellement l'UMP. Nicolas Sarkozy a-t-il intérêt à reprendre le parti? L'UMP et le centre doivent-ils s'allier comme l'a proposé Alain Juppé? Vous nous donnerez votre sentiment. Avant cela, nous allons nous intéresser à la politique du gouvernement. Projet de budget rectificatif, réforme territoriale, loi de transition énergétique. Beaucoup de textes sont dans les cartons et vont bientôt être présentés au Parlement. À mes côtés ce soir, pour vous interroger, Christophe Forcari du quotidien Libération. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Bernard Pellegrin de l'agence France Presse. Bonsoir.
Bonsoir.
Le gouvernement présente demain en Conseil des ministres ses arbitrages en matière budgétaire. Au programme, baisse supplémentaire des dépenses et coup de pouce fiscal pour les ménages. 1 milliard d'euros de réduction d'impôts. L'objectif étant de réduire le déficit public. Première question toute simple, François Sauvadet. Quel est votre sentiment sur les grandes lignes de ce budget rectificatif? Le premier de Manuel Valls, il va plutôt dans le bon sens selon vous?
Il n'est pas à la hauteur des enjeux. Vous le voyez bien, d'ailleurs, il y a un problème de crédibilité, puisque la Commission européenne, à chaque fois qu'on présente un plan disant « nous allons parvenir à l'équilibre », nous dit « mais attendez, vous êtes soit trop optimiste », ce qui s'est d'ailleurs vérifié, et en tout cas, vous n'êtes pas à la hauteur du défi qui est devant nous, dans notre pays. Et donc, il y a vraiment un effort d'urgence à faire dans deux domaines. C'est une vraie réduction de la dépense. On va nous proposer demain 1,6 milliard, alors qu'on sait que le gouvernement lui-même annonce qu'il faudra faire jusqu'en 2017 50 milliards. Attendez, comment on va faire 50 milliards? Il faut des réformes structurelles de fond. J'ai été ministre de la fonction publique. Aujourd'hui, les fonctionnaires sont dans la rue et ont augmenté le nombre de fonctionnaires. Il n'y a pas un pays en Europe et au monde qui a réussi à régler son problème de déficit sans d'abord s'attaquer au problème de la dépense, sans réduire le nombre des fonctionnaires et sans que l'État se ressente sur ses missions. Donc c'est juste pas à la hauteur.
Donc il faut refaire ce que vous avez fait notamment sous Nicolas Sarkozy, par exemple ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite.
Bien sûr, c'est non seulement impératif, mais c'est une exigence première. Regardez sur notre budget, le chapitre pension et fonctionnaires d'État, ça représente de l'ordre de 117 milliards d'euros de dépenses. Alors évidemment, si vous ne faites pas les efforts nécessaires pour recentrer l'État sur ses missions, l'alléger et faire en sorte qu'on puisse le rendre opérationnel, évidemment, on va se retrouver dans la même situation que celle que nous avons depuis déjà plusieurs années. Pas de croissance en France. Regardez ce qui s'est passé en Angleterre. Aujourd'hui, ils ont des taux de croissance de 1,5-2%. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Même l'Espagne, qui est en grande difficulté. L'Italie, qui est en grande difficulté. Et la Grèce, à qui on a demandé des efforts considérables. Ils ont fait les efforts nécessaires. Et nous, on continue de dire, dormez tranquille, on fait des efforts, mais il n'y a pas de résultat. Et au contraire, le pays s'enfonce. Donc il faut bien des mesures drastiques. Premier levier, la compétitivité, faire un plan massif et ne pas attendre l'année prochaine avec des annonces successives qu'on va aider les entreprises à être performantes et à avoir des charges salariales moindres. Et puis le deuxième aspect, c'est baisse des déficits. Je rappelle qu'un point de croissance, c'est 11 milliards de rentrées dans les caisses. Un point de croissance. Là, aujourd'hui, on est à croissance zéro. C'est pas normal dans la zone euro, alors que tous les pays repartent.
Bernard Pellegrin.
Le pacte de responsabilité, vous y croyez pas du tout?
Mais j'y crois, mais il vient quand? Les entreprises, ça va marcher quand? Il est annoncé, mais il n'est pas mis en œuvre. Alors on nous annonce ça pour la fin de l'année, etc. Il faut des mesures urgentes, radicales, engageantes. Le mot, vous savez, pour un chef d'entreprise aujourd'hui, c'est le mot confiance. Et aujourd'hui, comment on peut avoir confiance? On vient de prendre 30 milliards d'impôts supplémentaires sur les entreprises et les particuliers. On nous dit maintenant, attendez, on a compris, on a trop prélevé, on va en remettre 1 milliard. On va en rendre 1 milliard. Mais on va rendre 1 milliard pour qui? Les classes moyennes vont continuer de payer de l'impôt, ne vous trompez pas.
Et donc, et le mécanisme du pacte de responsabilité, le donnant-donnant, vous n'y croyez pas?
Si, moi je crois que c'est très bien d'alléger, mais dire donnant-donnant, c'est de dire vous allez embaucher en contrepartie de l'effort. Ce qui fait l'emploi, et ça c'est pas nouveau, tout le monde le sait, ce qui fait l'emploi, c'est l'activité. Et vous pourrez dire on va jouer gagnant-gagnant, si à la clé il n'y a pas une relance de l'activité, c'est-à-dire de la croissance, eh bien effectivement on va se retrouver dans une situation impossible et placer les entreprises dans une situation impossible.
Mais cette politique de l'offre qu'a mis en place François Hollande, qui est critiquée hein, par une partie de son aile gauche aujourd'hui, est-ce que vous lui accordez quand même du crédit? Est-ce que vous acceptez un petit peu de dire que François Hollande là-dessus a un petit peu évolué et se dirige, on pourrait dire, plus vers vous que vers son aile gauche?
Oui, je crois qu'il y a eu une inflexion, incontestablement. Mais je dis, il faut passer maintenant des déclarations aux actes, et c'est urgent. Nous, on a fait un certain nombre de propositions, y compris aussi sur les emplois familiaux qui ont été remis en cause. Et vous voyez bien, il y a des centaines de personnes qui se trouvent aujourd'hui sur le pavé. Mais ces propositions ne sont pas reprises. Parce qu'effectivement, il y a un débat au sein de la majorité actuelle, au sein du Parti Socialiste, qui n'est pas tranché. Et vous avez une aile gauche qui est restée ancrée dans des dogmes, ce qui pose beaucoup de problèmes à notre pays. Et je le pense, beaucoup de problèmes à Manuel Valls.
Alors, ce collectif budgétaire sera débattu à l'Assemblée du 23 au 25 juin prochain. La réforme pénale, elle, a été adoptée ce mardi en première lecture par l'Assemblée nationale. Plusieurs évolutions importantes dans ce texte. Suppression des peines planchers pour les récidivistes. Peine mise en place sous Nicolas Sarkozy. Création d'une peine de probation, la contrainte pénale. Enfin, lutte contre les sorties sèches de prison. Écoutez, Christiane Taubira, la ministre de la Justice, qui répondait cet après-midi à un député UMP sur le sens de cette réforme.
Nous avons choisi, plutôt que de perdre du temps et de l'énergie à rappeler votre bilan, de travailler avec une méthode rigoureuse et de viser l'efficacité. Et c'est ainsi que nous avons conçu ce projet de loi, avec une méthode inédite, mais qui produit surtout un projet de loi avec des dispositions qui vont redonner du sens à la peine, c'est-à-dire protéger la société, punir l'auteur des actes, réparer les préjudices subis par les victimes et préparer la réinsertion, parce qu'il est important pour nous d'éviter la récidive, de la réduire le plus possible, c'est-à-dire d'éviter de nouvelles victimes.
Alors la réforme pénale a donc été adoptée cet après-midi à l'Assemblée. L'UDI et l'UMP ont voté contre. Pour quelles raisons, François Sauvadet ?
Oui, moi je ne suis pas pour le tout prison, évidemment, notamment pour les peines les plus faibles, enfin les plus courtes. Mais en tout cas, dire on supprime les peines planchers, notamment qui étaient conçues pour les récidivistes et pour les cas les plus lourds, c'est-à-dire ceux que pour lesquels la société aspire à se voir protégée du risque de récidive. C'était ça l'histoire de la peine plancher. Et deuxièmement,
mais elle n'était pas très appliquée. Ce que disait aujourd'hui le gouvernement, c'est qu'elle n'était pas suffisamment appliquée.
Oui, pas appliquée, mais pourquoi elle n'est pas appliquée? C'est pourquoi? Il y a une raison très simple, c'est que le gouvernement a renoncé à créer des places supplémentaires de prison. Aujourd'hui, nos prisons sont surchargées. Et la réponse, elle n'est pas simplement... La bonne réponse, c'était de dire, nous allons créer des espaces d'emprisonnement qui sont nécessaires pour éviter ce qu'on connaît dans les prisons aujourd'hui, c'est-à-dire une situation intenable, inadmissible, insoutenable. Et puis dans le même temps, faire en sorte que ceux qui sortent soient accompagnés pour leur sortie, parce que ça c'est une vraie question. Mais dans le même temps, dire aujourd'hui, on va faire des peines de substitution, c'est-à-dire qu'on va être libre et qu'on va avoir des contraintes qui nous sont fixées par le juge. J'attire votre attention sur le fait que pour l'application de la réforme, il faut poursuivre chacun de ceux qui vont être condamnés à une peine, j'allais dire, dans la société, il faut des juges d'application des peines qui assurent le suivi. J'ai regardé ce qu'on nous disait. Il faudrait créer 1000 postes de juges d'application des peines pour assurer un véritable suivi.
Et le gouvernement en a promis 40 en plus.
Gouvernement en annonce 40 de plus. Mais qui va suivre tout cela? Qui va suivre l'application de la peine? Alors on dit on va mettre autour de la table les collectivités territoriales, etc. Mais j'entends ce que disent aujourd'hui.
Donc, il faudrait moins de fonctionnaires, mais plus de juges.
Il faut choisir, on met des fonctionnaires. Si on fait sortir les prisonniers de leur geôle, il faut effectivement qu'ils soient suivis, sans quoi vous allez avoir une explosion. Il ne faut pas oublier que la société, il y a une aspiration de la société à se protéger, y compris contre les petits délits pour lesquels il faut apporter une réponse. Alors évidemment, il faut qu'elle soit proportionnée, il faut qu'elle soit juste, il faut que la peine soit individualisée. Mais en tout cas, cette formule-là ne peut pas marcher si elle n'est pas accompagnée de recrutement de juges d'application des peines, chacun le sait. Même le syndicat de la magistrature le dit aujourd'hui.
Est-ce que, comme beaucoup à droite, vous qualifieriez ce texte de laxiste, comme on l'entend le plus souvent?
Je crains en tout cas que, faute de moyens pour l'appliquer, ça se traduise dans l'opinion par le sentiment qu'on laisse faire aujourd'hui, en effet. Et ça, c'est très préoccupant dans le contexte qu'on connaît avec la montée du Front National. L'exaspération aussi du peuple doit être entendue. Et donc, il faut comprendre aussi l'exaspération de tous ceux qui sont confrontés au quotidien à des délits, parfois qu'on appelle des petits délits, mais qui pourrissent la vie des gens.
Christiane Taubira est l'allié objectif de Marine Le Pen, à vous entendre ?
C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que quand on veut l'application d'une réforme, il faut s'en donner les moyens, sans quoi elle est vouée à l'échec. Et je pense que c'est une mauvaise réforme.
La contrainte pénale, cette peine de probation qui a été créée, en plus des autres peines existantes, hein, vous êtes plutôt favorable
Non, j'étais favorable pour la sortie, c'est-à-dire pour accompagner ceux qui sortent de prison. Vous savez, moi j'étais très frappé par un témoignage d'un prisonnier qui était sorti de prison et qui, faute de trouver sa place, faute d'être accompagné pour reprendre pied, faute de s'insérer, d'être accompagné pour l'insertion, a commis un délit pour retourner en prison. Vous vous rendez compte? Alors là, oui, là, il y a une nécessité absolue. Mais le fait de substituer d'une manière très générale à la peine de prison une sortie des geôles, je dis que si on ne met pas en face les moyens, et nous n'avons pas les moyens à mettre en face, ça va causer de sérieux problèmes.
Et c'est pour ça que c'est un mauvais texte?
Parce
qu'il n'y aura pas suffisamment de moyens qui seront mis...
Notamment. Et parce que c'est une mesure générale. C'est parce que c'est une mesure générale qui aurait dû être ciblée pour les sorties de prison, c'est-à-dire quand la personne a effectué une partie de sa peine et qu'on estime, que le juge d'application des peines notamment estime qu'il peut sortir, c'est là où il faut qu'il soit accompagné. Donc, ne pas substituer à la peine une autre mode de
l'effectuer. Donc, faute de crédit, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, faute de crédit pour créer des postes de juge d'application des peines, il faut en trouver pour construire des prisons.
C'est pas ce que je dis du tout. Je dis simplement qu'il fallait d'abord ne pas renoncer au plan d'équipement et de construction de prisons, avec notamment ce qu'on avait engagé du partenariat public-privé. Ça, la gauche n'aime pas. Et ben voilà, on se retrouve avec un problème de place dans nos prisons, et du coup, des mesures généralisées qui, faute de moyens, ne permettront pas le suivi de toutes les personnes qu'on va remettre dans la société. Et ça va poser un vrai problème à terme, vous verrez.
Allez,
je ne le souhaite pas, hein. Je vous le dis tout de suite, je souhaite la réussite du pays.
Allez, venons-en maintenant à un sujet qui fait aussi beaucoup parler ces derniers jours, c'est la réforme territoriale. Le projet présenté la semaine dernière par François Hollande prévoit une réduction du nombre de régions de 22 à 14 et la disparition d'ici 2020 des conseils généraux. André Valigny, le secrétaire d'État à la réforme territoriale, a lancé un appel dimanche à l'opposition pour qu'elle sorte, a-t-il dit, des querelles politiciennes. On l'écoute.
La politique souffre du court-termisme. Moi, je me place dans une réforme sur 5 à 10 ans. Pour une fois qu'on fait une réforme structurelle, à moyen terme, de grâce, un peu d'objectivité, l'UMP n'arrête pas de nous dire « faites des réformes structurelles ». Et quand on demande lesquelles, il cite en premier la réforme territoriale. On fait cette réforme structurelle, à moyen et long terme. Sortons un peu de la politique politicienne à courte vue.
Sortons de la politique politicienne à courte vue, disait André Valigny dimanche soir chez nos confrères de RTL. Que lui répondez-vous, François Sauvadet?
Il a raison, il faut en sortir. Mais franchement, là, on est dans un monde de fous. Enfin, vous imaginez, on vient de sortir d'un débat où on disait, pour préserver le département, je suis président d'un conseil général moi-même, pour préserver le département, disait le gouvernement, Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, on va redécouper les cantons, on va remettre de l'équilibre territorial pour les sauver et pour les conforter. Un an plus tard, même pas un an plus tard, on se retrouve avec l'annonce de la suppression des départements. Et rendez-vous compte, dans quel pays sommes-nous pour voir un président de la République, à 21h du soir, annoncer, au détour de discussions qu'il a eues exclusivement avec ses collègues socialistes, annoncer qu'on va redécouper la France en 14 régions, je crois, quelque chose comme
14
ça.
Régions,
14 régions. 7 qui bougent pas, mais au nom de quoi? Au nom de quoi on a redécoupé tout cela sans dialogue? Par une dépêche AFP, les élus locaux, on l'a appris. Vous pensez que c'est une méthode de gouvernement? Mais c'est insensé. Moi, je regrette cette méthode. Alors aujourd'hui, qu'ils nous disent, ben voilà, on vous tend la main, mais on tend la main comment? Quel dialogue? Moi, je lui dis, chiche, organisons, c'est ce que je lui ai proposé au gouvernement, des assises territoriales. Effectivement, moi, je souhaite qu'on évolue. Moi, j'aurais fait une proposition. Alors, allons au bout d'une réforme. Jouons pas petits bras. Créons des vraies grandes régions qui sont en situation de faire de l'investissement, de prendre en charge des infrastructures.
Vous en demandez 8, c'est ça, à peu près? 8 grandes régions?
C'est ça, 8. Moi, j'aurais été favorable à une grande région Grand Est. Parce qu'au moins, on serait sorti de projets qui sont retombés aux oubliettes, faute de choix politiques de la part de l'État. Moi, j'aurais dit, voilà, on va se faire une grande région Grand Est, on va relancer le canal Saône-Rhône qui manque, 70 km qui manque, on va faire des grands projets d'infrastructure, et puis on garde une structure de proximité sur un triptyque, sur un trépied, commune, communauté de communes et département. Là, ça prenait tout son sens. Là, ça avait un vrai sens pour le pays. Mais là, qu'est-ce que c'est que cette réforme à deux balles? Enfin, franchement, c'est du foutage de gueule, ce truc. On va supprimer les départements, mais qui va s'occuper des routes départementales? Qui va s'occuper des collèges? Qui va s'occuper du RSA? Alors, bonne nouvelle, tiens, je viens de l'apprendre ce matin, on va confier le RSA à la Caisse d'allocation familiale. Là, les élus n'auront plus rien à voir dans le système. Moi, aujourd'hui, si j'ai demandé des contrôles pour lutter contre les fraudes, c'est parce que le pouvoir politique que j'incarne a demandé à la CAF de faire ces contrôles. Alors, on est en train de faire des usines à gaz, je sais pas où on va aller. Je ne sais pas où on va aller. Et au moment, et on engage une réforme comme celle-là, sans dialogue avec les collectivités territoriales, au moment où on leur réduit leur capacité financière de 11 milliards d'euros annoncés, et au moment où on leur demande de soutenir l'emploi par l'investissement public. Mais enfin, on marche sur la tête. Mais je le dis, moi, il n'y a aucun pays démocratique qui fonctionne comme ça. Le fait présidentiel du redécoupage sur le coin de son bureau entre 21h et 21h08. Enfin, franchement, c'est un mépris pour les milliers d'élus locaux qui ne sont même pas informés, qui ont découvert ça dans leurs quotidiens régionaux. Enfin, franchement, c'est pas sérieux. Non, ça, c'est pas à la hauteur du défi. Et moi, j'accuse le président Hollande. Je l'accuse, précisément, de ne pas avoir fait de la réforme un grand projet politique partagé. On lui tend la main depuis des mois et des mois, mais il est dans une posture d'indécision, dans une posture d'amateurisme, et dans une posture pour essayer de se sauver, d'écouler en essayant de poursuivre après l'opinion. Puis après, on s'étonne que le Front National soit à 25 aux dernières élections. Ben, faut pas s'étonner.
Christophe Forcari.
Alors, vous avez parlé des économies à faire dans la fonction publique d'État. On dit que le millefeuille territorial est une cause de dépenses pas forcément très utile. Moi, j'aimerais comprendre concrètement, comment on peut faire des économies par le redécoupage territorial? Ça veut dire que, par exemple, le syndicat du tourisme, l'office du tourisme de Bourgogne, n'existera plus quand il sera fondu dans une grande région. Qu'est-ce qu'on va supprimer pour faire des économies? Comment on va
faire? Vous posez, Monsieur Forcari, une excellente question. L'agence Moody's, ce matin même, vient de dire que la réforme telle qu'elle est proposée là ne produira aucun effet d'économie sur les finances publiques. Aucun. Il faut quand même savoir que dans la fonction publique, vous avez 2,5 millions de fonctionnaires dans la fonction publique d'État, vous en avez 1,3 million dans la fonction publique territoriale. Et souvent, on nous dit que ça a augmenté, mais c'était des transferts de l'État. Moi, ce que j'ai fait, je fais une proposition aujourd'hui au gouvernement, et je la fais sur votre antenne, c'est que on engage la Cour des comptes à nous faire un rapport pour dire, voilà, les vrais chiffres. Même le ministre Valigny nous annonce 8 milliards un jour, lendemain 15 milliards, et puis dans une envolée, je pense que c'était parce qu'il était content d'avoir trouvé son ministère, il nous annonce 25 milliards un jour. On est même monté jusqu'à 25 milliards. On allait trouver où les économies pour refaire les routes? Nous, on a fait tous les efforts qu'il fallait. Moi, dans mon conseil général, j'ai baissé la Cour des comptes, la Chambre des comptes, l'a certifié de 22% les charges de fonctionnement. Que l'État en fasse autant. Et puis après, qu'on dise qu'il va faire quoi? Le vrai sujet, c'est de commencer par les compétences. Et après, fusion de département-région, pourquoi pas? Mais en tout cas, en proximité, on va encore éloigner les pouvoirs de décision, faire des grandes usines à gaz sans savoir ce que ça va faire. Alors nous, on va marier Besançon et Dijon. On va faire comme à Strasbourg et Bruxelles. On va aller une fois se réunir à Besançon, puis une fois à Dijon. Enfin, puis quand tu as parlé de la grande région centre qu'ils ont fait, vous avez vu ça? Ça remonte jusqu'à la banlieue parisienne et ça redescend jusque dans le sud. Enfin, ça n'a aucun sens. Aucun sens.
Bernard Pellegrin.
Mais expliquez-moi, vous nous indiquiez il y a un instant que vous étiez favorable, par exemple, à 8 grandes régions en France. J'imagine, c'est ma première question, que c'est dans le but aussi de faire des économies d'échelle.
Oui.
Ces 8 régions. Et puis ma deuxième question, c'est ce nombre 8, Alain Juppé, avec lequel vous avez quelques atomes crochus, si j'ai bien compris. Enfin, vous aimez bien ce qu'il dit souvent politiquement. Lui, il dit...
Pas surtout. Hein,
non, pas dire peut-être pas là-dessus. Lui, il dit 8 régions, ça affaiblit l'État. Ça fait des grands vassaux. Ça fait des grandes... au pays de la monarchie, avant la Révolution.
Vous avez exactement...
Alors, vous êtes pour ça?
Vous avez exactement posé la question. C'est une recentralisation à laquelle on assiste sans précédent dans l'histoire de la République. Et je suis extrêmement surpris que ce soit les héritiers de Mauroy... D'ailleurs, un jour, j'étais appelé à dire « Au secours, Mauroy, reviens !» Et de faire « Revenez !» Ils sont devenus fous. Parce que effectivement, on ne veut pas d'un État décentralisé. Moi, je souhaite un État profondément décentralisé. Et c'est ça qui ferait des économies. Un État recentré sur ses missions, sur les armées, sur les affaires étrangères, sur les grandes politiques de l'emploi, etc. Et puis qu'on confie aux grandes régions toutes les responsabilités qui doivent être faites en proximité.
En même temps, dans cette réforme, les intercommunalités...
Mais on ne veut pas de la décentralisation. C'est ça la question de fond.
Les intercommunalités prennent du poids dans cette réforme.
Mais attendez, c'est quoi une intercommunalité? Moi, je vais vous dire, je suis allé défendre l'autre jour à Matignon le plan très haut débit que je voulais développer sur le Conseil général de la Côte d'Or. Vous savez ce qu'on m'a dit? Bah, écoutez, faites participer les communautés de communes. Moi, aujourd'hui, j'ai une communauté de communes de 100 communes dans mon département. 100 communes. La mienne, elle fait 28 communes. Un point de fiscalité, 3000 euros. On va nous confier quelle mission supplémentaire? On peut même pas faire face simplement à l'entretien du quotidien et simplement s'occuper de nos enfants sur le territoire. Alors, l'intercommunalité, on va pas faire des intercommunalités à 100 000 personnes.
On va y revenir dans la seconde partie de cette émission. On parlera également de votre parti, l'UDI. On en viendra aussi sur la crise qui secoue l'UMP. On se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes.